Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait le plein de crème solaire parce qu'on voit de ci de là des épaules très très rouges. J'espère que vous allez bien sur une bonne gourde d'eau fraîche à portée de main, mais il fait très très chaud. Nous sommes le mardi 15 juin 2021. Il fait un grand soleil dans tout le Beaujolais. Il fait aussi effectivement très chaud avec des températures qui pourraient atteindre 33 degrés cet après-midi. Au programme de notre émission, nous avons rendez-vous avec le coach. En ce moment, il a l'air plutôt intéressant par les questions de débat, d'échanges constructifs. On va découvrir ensemble de quoi il va nous parler aujourd'hui. En fin d'émission, on retrouvera Bertrand Lamure, notre libraire de la librairie des Marais, pour nous parler littérature. Avant ça, la première partie de l'émission est bien sûr consacrée à notre invité du jour. Avec nous en studio, Isabelle Augier-Janin, de la compagnie L'éléphant de poche. Elle est comédienne, metteuse en scène, médiatrice artistique. Une trentaine d'années d'expérience à son actif. Elle multiplie les formes de jeu et d'expression théâtrale. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de son spectacle Amour à mort, un tour de chant très dramatique. Alors, qu'est-ce qui se cache effectivement derrière ce titre plutôt hyperbolique? On va voir ça ensemble dans quelques minutes. Avant ça, on commence l'émission en musique, bien sûr. On écoute Clara Luciani avec Amour toujours. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous. Luciani sur Calade avec Amour Toujours, extrait de son tout dernier album.
Ensemble sur Calade.
100.9 Calade.
Allez, avec nous aujourd'hui en studio dans Ensemble sur Calade, Isabelle Ogier-Janin. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler plus particulièrement de votre tour de chant, Amour à mort, le tour de chant de la compagnie de l'éléphant de poche.
Oui.
Mais avant, on va apprendre un petit peu mieux vous connaître. Alors, vous avez plein de casquettes. Vous êtes
oui.
comédienne en premier lieu ou pas ?
Oui, oui, on peut dire qu'à la base, je suis comédienne. Je suis également chanteuse.
Ouais.
Je suis metteuse en scène. Je suis. Et je fais de la transmission. Alors, en tant que professeur de théâtre et aussi en tant que médiatrice artistique.
D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce que ça a commencé cet intérêt pour le théâtre et l'art vivant, je dirais plus généralement, peut-être ?
Oh, depuis... Ça fait très longtemps que j'ai envisagé de faire ça. Déjà enfant, j'avais très envie de faire du théâtre. Mmh. Et c'était plutôt le théâtre que le cinéma, d'ailleurs, qui m'attirait. Je ne sais pas, très narcissiquement, je crois que c'est les applaudissements. Ouais,
d'accord, ce n'était pas rêver d'être à l'affiche d'un grand film, c'était vraiment être sur scène devant
non,
des gens.
Non, c'était vraiment, je crois que c'est vraiment la scène. C'est vraiment cette petite boîte magique où les personnes peuvent... tout de suite regarder une histoire, enfin suivre une histoire, et puis y a ce côté magique de la boîte enfin qui me plaisait bien.
Et réagir aussi,
et réagir
le public
également, réagir
directement devant soi. Donc vous avez commencé par le théâtre. Et vous avez développé plein de compétences et de cordes à votre arc.
J'ai commencé par le théâtre tout en suivant des études de lettres, parce que ma maman m'a dit, attention, il faut quand même faire des études. Et il se trouve que j'aime beaucoup ça. Enfin, la littérature me plaît énormément. Donc j'ai fait un cursus un peu multiple et je me suis formée à des arts de la scène. Un peu varié, un peu de danse, du chant lyrique, du chant polyphonique, du mime, du clown, enfin plein de choses. Et j'ai fondé avec Brandon Buck en 1984 ou 5, j'arrive même plus à me souvenir, une compagnie qui existe toujours, qui est à Dijon, qui s'appelle la Compagnie du Sablier.
Ouais.
Et dans cette compagnie, on s'est spécialisé dans la commedia dell'arte, parce que c'était vraiment le style de jeu qui nous avait le plus plu, vraiment, dans lequel on a voulu que l'on a voulu explorer. Voilà, donc je me suis spécialisée dans des formes de jeu interactives comme le jeu masqué, comme la commedia dell'arte, et puis bien plus tard, enfin en 93, je me suis également spécialisée dans le théâtre forum.
D'accord. Alors la commedia dell'arte, moi j'en ai des souvenirs d'école où on étudie ça, parce que c'est une forme d'art assez ancienne. Qu'est-ce qui caractérise cette forme de théâtre ?
Alors, la commedia dell'arte, c'est effectivement une forme ancienne, mais que nous avons travaillé de manière réactualisée. L'intérêt du jeu masqué de commedia, c'est de proposer des types, des personnages que l'on peut reconnaître immédiatement, enfin qui ont des caractéristiques reconnaissables très très vite, et qui proposent, enfin c'est un type de jeu qui se spécialise dans le comique, mais par le biais de ce comique, on peut aussi un petit peu critiquer les travers de la société, et en même temps ce sont des personnages paradoxalement qui sont très humains, que l'on reconnaît, c'est un petit peu comme si on avait des caractéristiques humaines, on peut reconnaître son voisin, on peut reconnaître, personnifier ou se reconnaître d'ailleurs soi-même, et c'est un style de jeu qui est très interactif, il y a beaucoup de rapports avec le public peut interpeller, nous on interpelle le public, c'est un style de jeu qui demande beaucoup de rigueur parce que il faut jouer face publique. Si vous jouez de profil, vous perdez les yeux du comédien et le masque redevient un objet de cuir ou de carton. Donc ça demande énormément de rigueur, savoir segmenter ses gestes. Et en même temps, énormément de chaos. C'est-à-dire que tout est possible à ces personnages qui sont un peu des clowns, qui sont complètement fous. Donc c'est un style de jeu que je trouve formidable et que j'aime pratiquer régulièrement.
Et vous avez aussi parlé du théâtre forum.
Oui.
Alors celui-là, je l'ai pas vu à l'école.
Oui, alors non, c'est vrai, c'est vrai. Quoique, quelquefois, et de plus en plus souvent, il y a des personnes qui me disent « Oui, j'ai vu ça au collège. » Je sais que j'ai beaucoup tourné donc, avec la compagnie Temps Fort. Ouais. C'est avec elle que j'ai fait mes premières armes de Théâtre Forum. Et je lui suis de temps en temps encore un peu fidèle. Je reviens de temps en temps à Temps Fort pour jouer. Le Théâtre Forum, c'est un théâtre social, je dirais. C'est un théâtre interactif également. C'est-à-dire qu'on propose une situation où une personne est opprimée, a subi une oppression, et on discute avec le public pour savoir ce qui s'est passé. Et souvent, les personnes du public disent « Bon, ben moi, si j'avais été à la place de cette personne opprimée, ou si j'avais été à la place du témoin, j'aurais agi de cette façon-là. » Donc, on les invite à venir sur le plateau.
Montrez-nous.
Alors, montrez-nous. Voilà, montrez-nous. Ça permet de dépasser l'opinion. Ça permet de... Alors, c'est pas la réalité, c'est du théâtre, mais c'est quand même très proche de situations réelles. Ouais. Et donc, ça permet au public d'essayer des solutions.
Voilà. Se mettre à la place de l'autre aussi.
Se mettre à la place de l'autre, tout à fait, tout à fait. Ça a aussi cette vertu-là. Et eh bien, ça permet au groupe, à la cité ou à la classe, parce que ça peut être aussi joué en milieu scolaire, de réfléchir ensemble à une problématique et de trouver des solutions. Mmh. Et si on n'a pas trouvé la solution, parce que ça arrive à ce moment-là, on a quand même initié une réflexion active sur un sujet.
Ouais, bien sûr. On est déjà un petit peu dans la transmission parce que le spectateur devient acteur à ce moment-là. Je crois que vous l'avez évoqué, que ça fait partie aussi de vos nombreuses activités, la transmission et la médiation artistique.
Oui, oui, depuis toujours, moi j'aime bien transmettre ce que j'apprends. Donc je suis professeur de théâtre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi médiatrice artistique, c'est-à-dire que j'utilise les outils du théâtre pour des visées qui ne sont pas uniquement artistiques. Il y a une visée artistique, toujours. Je cherche à rendre les personnes qui viennent se former autonomes de manière théâtrale. Mais il y a également une commande associée, en général, ou pédagogique, ou de bien-être, mieux-être personnel. Ou, voilà, il y a une commande assujettie à...
D'accord. Et ça se passe avec des institutions ou des...
Ça se passe avec n'importe quel type d'organisme, que ça soit des associations, des institutions. Ça peut être en milieu scolaire, ça peut être... alors, j'ai une formation d'art-thérapeute, mais je ne suis pas art-thérapeute, mais ça peut se passer en milieu psychiatrique, en prison, enfin... Je travaille avec Filigrane Rhône-Alpes, qui fait de la médiation artistique, même si on n'utilise pas forcément ce terme-là, c'est-à-dire des artistes qui utilisent leur technique artistique au service de la communauté.
D'accord.
Voilà.
Et donc, vous avez créé la boîte. B-O-A, je sais pas.
Oui,
est-ce qu'il faut prononcer différemment?
Non,
que
non, c'est bien. La boîte à outils artistiques.
Ouais.
Voilà. Oui, oui. Qui me permet de faire des propositions de médiation artistique via le théâtre et via aussi l'écriture.
Et on continue, on termine d'énumérer vos nombreuses activités, mais vous êtes aussi auteur, vous venez de le dire.
Oui.
De 3 livres, je crois.
Oui, j'ai 3 livres qui ont été publiés. Un qui est sur la pratique de l'atelier théâtre, donc mon expérience de transmission de médiation artistique, qui a été édité en 2012. J'ai également fait publier une pièce de théâtre que j'ai créée avec Pascal Daguineau, donc qui est de la Commedia dell'arte.
Ouais.
Là, tout récemment, en septembre 2019, je crois, oui, ça semble tromper. Du coup, avec le Covid, je ne sais plus.
On a un peu perdu. Voilà. L'année 2020 qui compte plus, je crois.
Ouais, voilà. J'ai commis un essai théâtralisé qui s'appelle Et vous en vivez, et qui parle du statut et des conditions de vie des artistes transmetteurs, qu'ils soient artistes intervenants ou médiateurs artistiques.
D'accord. Et donc, c'est sur les conditions de vie, c'est-à-dire...
C'est-à-dire, ça s'appelle « Et vous en vivez
»,
parce que c'est la question qu'on nous pose souvent. Et ça traite surtout de la précarité de ce type de travail, de ces joies et aussi de ces difficultés.
C'est une question qui a été assez importante en ce moment, avec toutes les essentielles ou non essentielles.
Exactement, ouais. On est malheureusement en pleine actualité avec cette question-là. Et donc, mon idée, c'est d'aller à la rencontre des publics, que ce soit des médiateurs artistiques ou des publics qui sont intéressés par la médiation artistique, pendant des signatures que je fais de mon livre. Et l'idée, c'est de poser la question au public, est-ce que vous envisagez à ces artistes, est-ce que vous en vivez? Donc il y a un débat qui est prévu juste avant la dédicace, et ce travail-là est un travail préalable à un documentaire que je voudrais initier sur cette problématique, cette thématique de la précarité des artistes intervenants.
Très bien. Donc ça, c'est le livre « Et vous en vivez » aux éditions L'Harmattan.
Oui.
Et on va quand même parler du spectacle que vous êtes venu nous présenter.
Oui, bien volontiers.
L'amour à mort. Alors c'est un spectacle qui est porté par la compagnie L'Éléphant de Poche.
Oui.
Compagnie de Villiers-Morgon.
Alors oui, c'est une compagnie qui est née à Villeurbanne. En fait, c'est une compagnie que j'ai créée et qui avait son siège social au départ à Villeurbanne. Et puis qui maintenant à son siège social dans le Beaujolais, à Villiers-Morgon. Oui.
Et donc, l'amour à mort, c'est ce qu'on appelle un tour de chant.
Oui.
Donc, vous allez réinterpréter des titres de répertoire, des titres connus, moins connus, et vous les réapproprier.
Oui, voilà. C'est assez éclectique. Enfin, c'est même très éclectique.
Ouais.
Donc, le répertoire, ça va de la chanson réaliste au hard rock, en passant par la pop, la bossa, le lyrique aussi.
Ouais.
Voilà. Parce que j'ai une formation de chant lyrique, donc j'ai eu envie d'en profiter. En fait, ce sont des titres que j'aime et qui sont liés à cette thématique de l'amour et de la mort, parce que je pense qu'il y a des répertoires, il y a un répertoire formidable, quelle que soit la forme.
Dans ces deux thématiques-là.
Sur cette thématique-là, voilà.
Et alors, est-ce que c'est l'amour à l'extrême jusqu'à la mort, ou c'est l'amour d'un côté et la mort de l'autre?
Ah, y a une évolution dans le spectacle. Voilà, sans tout dévoiler, je dirais que ça commence avec juste les prémices d'un amour contrarié. Enfin, il y a pas beaucoup de chansons sur l'amour heureux et partagé, puisque c'est pas le thème. Enfin, il va y en avoir une ou deux sur le désir et le plaisir partagé. Et ensuite, on voit comment petit à petit Thanatos, enfin la mort, rôde par un biais ou par un autre.
C'est plus des amours douloureux.
C'est plutôt des amours qui font mal, on va dire. Voilà.
Et sur scène, j'imagine que vous jouez des rôles en tant que comédienne. On a quelques visuels où on vous voit, vous êtes trois sur scène, tous habillés en noir avec une cravate rouge. Vous avez l'air d'être... Il y a des personnages, quoi. Vous n'êtes pas juste là pour interpréter des morceaux.
Alors, c'est un peu, comment dire... Oui, ce sont des personnages, mais c'est quand même... Ça reste un tour de chant. Mmh. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre le tour de chant et une manière de les interpréter qui soit un peu assez théâtral.
Ouais.
En fait, c'est dans l'interprétation des morceaux que on cherche cette théâtralité-là. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour moi de le définir. Je crois que ça tient vraiment autant du tour de chant que de la théâtralisation.
L'interprétation, c'est il y a le fait d'interpréter un morceau, de le chanter à sa manière. Il y a aussi interpréter un texte. Qu'est-ce qu'on en comprend? Il y a de ça aussi quand on choisit les morceaux, de mettre un peu de vous dans les textes que vous avez choisis pour.
Je sais pas si un peu de moi, il y a forcément un peu de soi dans une création. Après, on est trois, donc Arnaud de Roma, Richard Janin ont aussi leur manière de vivre ces morceaux, de les sentir. Voilà, je suis pas toute seule dans ce travail-là. Oui.
justement, dans l'interprétation et dans la musique, il y a un clip qui est en ligne, qui est de Tainted Love.
Oui.
Et qui est très, très rock.
Oui. Moi,
quand on me dit tour de chant, je ne pensais pas forcément à quelque chose de rock comme ça. C'est tout l'esprit du
oui,
spectacle.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a en partage quand même l'amour du hard rock.
Ouais.
C'est vrai que ce n'est pas mon répertoire habituel. Mmh. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs tours de chant plutôt en chanson réaliste, par exemple, avec quelques morceaux lyriques. Mais j'aime beaucoup chanter. J'aime également le hard rock. Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des titres aussi bien en anglais qu'en français, parce que qu'on le veuille ou non, la langue anglaise, ouais, ça fait aussi partie de notre culture.
Bien sûr.
Voilà. Et oui, donc c'est un tour de chant éclectique.
Ouais.
Voilà.
Donc sur scène, vous êtes aux côtés de Richard Janin et Deroma.
Arnaud Deroma.
Deroma.
Oui.
La mise en scène est signée Hélène Grange.
Hélène Grange, qui est une chanteuse comédienne lyonnaise, enfin, qu'on connaît bien en Rhône-Alpes, qui nous fait l'honneur et le plaisir de... Mais c'est pas la première fois, elle est régulièrement à l'éléphant de poche en tant que comédienne, chanteuse et en tant que metteuse en scène.
Et à la régie, on peut aussi noter Guillaume Servage,
oui,
qui vous accompagne.
Guillaume Servage, qui est un régisseur qui était également au CCAB, qui tourne beaucoup dans la région, qui est très actif en ce moment.
Ouais.
Voilà. Et qui nous a permis en résidence d'avancer un petit peu dans le travail un petit peu d'enregistrement et puis qui nous suivra à travers notre aventure, nos tournées, futures tournées mondiales.
Très bien, merci beaucoup Isabelle Augier.
Mais c'est moi qui vous remercie.
On va l'écouter, ce titre Tainted Love du spectacle L'Amour à mort pour se quitter.
Très bien, et puis il faut aller voir le clip si vous avez l'occasion.
On peut le retrouver effectivement sur YouTube, il y a le clip qui va avec le son qu'on va entendre tout de suite. Merci beaucoup encore une fois.
Merci à vous.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir.
Tainted Love, repris par la compagnie de l'éléphant de poche pour le spectacle L'amour à mort.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Allez, on retrouve tout de suite le coach. Bonjour, coach.
Salut, Gaston.
Vous allez bien en forme?
Ça va bien.
Ouais.
Hein, une petite semaine de vacances, puisqu'il n'y avait pas émission la semaine dernière, alors c'était bien cool, voilà. On en a profité finalement. Merci pour ça, gamin.
Bon, bah tant mieux, tant mieux. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Alors je suis un peu embêté aujourd'hui, pour rien te cacher, gamin. Mm-hmm. Avec la semaine de vacances, j'ai un peu oublié que nous étions mardi et je n'ai rien préparé pour cette chronique.
Ah mince.
En fait, il y a 5 minutes que je serai en direct à l'antenne quand tu m'as appelé, quoi, la gaffe.
Ouais.
La boulette, le pas de bol, l'erreur de débutant.
D'accord.
Et du coup, j'ai même pas eu le temps de me retourner pour bricoler une chronique vite fait en recyclant d'anciennes chroniques que tout le monde a oubliées. Bah ouais, les gars, je sais que vous m'écoutez que d'une oreille, hein, mais là, pas moyen de cacher mon erreur sous le tapis.
Mmh. Très bien.
En plus, tu vois, il faut reconnaître, gamin, quand même, que nous sommes dans un pays où on n'aime pas trop montrer que nous faisons des erreurs.
Ouais, c'est vrai.
C'est presque un péché capital de se gourer par ici. Hein. Alors, on dirait quand même que c'est en train de se détendre un peu. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, gamin, mais il existe un site gouvernemental qui vous propose de rectifier vos erreurs de déclaration à l'administration. L'adresse du site, c'est oups.gouv.fr. C'est pas une blague, hein.
C'est pas mal.
Oups.gouv.fr. Alors, sur ce site, là, parce que je suis en train un petit peu de surfer dessus, il t'explique la chose suivante. Le droit à l'erreur permet à l'ensemble des administrations de s'inscrire dans une démarche pédagogique à l'égard de l'usager. Elle ne sanctionne plus, mais s'engage à lui expliquer comment ne plus se tromper dans ses démarches. Nom d'un chien, c'est un vrai changement de paradigme, gamin. Aurais-je pu m'écrier si j'avais été un chroniqueur crâneur. Avant le site britney.oops.gouv.fr, t'avais pas intérêt à te gourer dans tes déclarations. Parce que si tu t'étais trompé, même de bonne foi, tu te prenais un coup de savate derrière les oreilles, pas le droit à l'erreur. Et nous avons dans notre pays un rapport à l'erreur un peu particulier. Si vous repensez à vos années d'école, vous avez encore en tête que ce qui était évalué, valorisé et noté, c'était la réussite et le sans faute, le graal du 20 sur 20. 5 fautes à la dictée, au revoir et merci d'avoir participé, n'oubliez pas votre zéro en partant. Une personne qui mène pas un projet à son terme, une entreprise qui fait faillite, un élève qui rate un examen... sont toutes considérées comme des losers, des ratés, des moins que rien. Pourtant, l'erreur a des vertus. Pourtant, l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Un savoir est bien plus fortement et facilement intégré par un enfant, ou même par un adulte d'ailleurs, lorsqu'ils ont pu expérimenter, essayer, faire d'une façon qui n'a pas fonctionné, puis tenter autre chose. Prendre le problème avec une autre logique. L'erreur aiguise la créativité et l'intelligence. Mais quand on a peur de se tromper, quand on a peur de faire des erreurs, on ne cherche plus à faire différemment. On ne cherche plus à améliorer ce qui existe. On fait comme faisaient les autres parce que ça marchait et que c'est comme ça qu'il faut faire. Du coup, c'est une erreur que d'avoir peur de faire des erreurs. Et c'est une erreur que de stigmatiser les erreurs. Heureusement, aujourd'hui dans les écoles, on commence à utiliser l'erreur comme moyen pédagogique. On valorise les élèves qui se gourent et qui, en cherchant, trouvent leurs erreurs.
Ouais.
Des pédagogies alternatives, comme celle de Freinet, enfin, qui date quand même de plus d'un siècle, comme celle de Maria Montessori, elles prennent racine timidement, mais sûrement dans quelques écoles. Et pédagogies qui sont basées sur l'expérimentation et l'erreur apportent des résultats très intéressants. Mais c'est pas encore gagné. Alors, vous pensez que je m'apprête à casser du prof et de l'instit ? Eh ben, pas du tout, mes cadets. Nombreuses et nombreux sont les professeurs qui souhaitent faire évoluer leur pédagogie, d'autant plus depuis que les neurosciences ont montré que l'apprentissage est basé sur des expérimentations et des erreurs. Et si ça avance pas vite, c'est que souvent, ces profs et ces instits doivent demander l'autorisation à leur inspecteur ou leur inspectrice qui sont un peu les gardiennes et les gardiens orthodoxes de la tradition scolaire française. Alors, si l'erreur n'est pas vécue comme un échec, mais comme une difficulté à dépasser, les enfants cherchent à résoudre le problème qui leur est proposé en essayant de nouvelles choses. Le problème est donc là sous notre terrain. Il ne faut pas confondre erreur et échec. Une erreur ne devient un échec que si on n'essaye pas de la résoudre.
Ah oui.
En tant que nouveau mâle alpha, gamin, et vous aussi les gars, eh bien, nous pouvons porter une attention particulière à cette confusion entre erreur et échec. Dans nos rôles éducatifs auprès des enfants d'abord, hein, que ce soit les nôtres ou ceux des autres, mais aussi dans nos projets ou dans le regard que nous portons sur les projets des autres. Concrètement, vous pouvez dégonfler la peur de l'erreur et valoriser la persévérance et les réussites au lieu de mettre l'accent sur les erreurs. Lorsque vous accompagnez des enfants dans leurs devoirs, par exemple, plutôt que de leur signaler le nombre d'erreurs dans l'exercice ou le nombre de mots faux dans leur préparation de dictée, eh bien, essayez de mettre en avant tout ce qui est juste. Parce que si vous dites à l'enfant « tu as 45 mots justes sur 50 », il va comprendre tout seul qu'il n'a fait que 5 erreurs, il va les chercher lui-même pour les corriger. Mais il a fait quand même 45 mots justes, ce qui représente quand même 90% de réussite, c'est pas mal.
Ouais, c'est plutôt pas mal.
L'habitude de mettre le doigt sur ce qui marche pas plutôt que sur tout ce qui marche. Et puis, pour vos projets, les gars, acceptez de faire des erreurs. Restez bienveillants avec vous et servez-vous de ces erreurs pour vous améliorer et pour apprendre. Le grand Nelson Mandela, mâle alpha suprême, avait l'habitude de dire « soit je réussis, soit j'apprends ». C'est-à-dire que pour lui, l'erreur, c'était surtout une opportunité d'apprentissage. Mmh. Alors, gamin, si je ne fais pas d'erreur dans ma gestion du temps, il me semble que nous arrivons à la fin de cette chronique et qu'il est grand temps pour moi d'essayer de m'améliorer.
Bah, oui, pourquoi pas. Mais je crois que vous avez quand même réussi à faire une chronique malgré votre erreur, coach.
Bon, il faut que je sois honnête, hein, je vous ai un peu baratiné, c'était faire style, tu n'avais pas fait de chronique, hein. Mais tout le monde avait bien compris ça.
On s'en doutait.
Je ne l'agis pas jouer bec bédé sur France Inter.
Bon, bah, très bien. Eh bah, merci beaucoup de nous avoir appris quelque chose sans qu'on ait besoin de faire beaucoup d'erreurs finalement, nous de notre côté.
Surtout accepter d'en faire des erreurs.
Et oui. Très bien, merci beaucoup coach, à très bientôt.
Allez, à bientôt les gars, et prends soin de toi gamin.
Ensemble sur Calade.
Allez, ben, il faut faire des erreurs, il faut essayer. Essayer quoi ? Essayer de se rappeler. On écoute Harry Belafonte, Try to Remember.
Try to remember kind of September, when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September, when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were a young and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember,
then follow, follow. Deep in December, it's nice to remember, although you know the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember, without a hurt, the heart is hollow. Deep in December, it's nice to remember.
C'était Harry Belafonte avec Try to Remember et c'est la fin de votre petite micro-sieste. Il faut se réveiller. Attention, le jingle risque de vous secouer un petit peu. On va parler littérature tout de suite.
Encore un peu de lecture.
Ensemble sur Calade.
Et bon, mais c'est un bon bouquin. Je veux dire, c'est sérieux.
Littéraire du libraire.
Effectivement, il y a un décalage entre Harry Belafonte et le jingle. On retrouve tout de suite Bertrand Lamure. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Eh bien, très bien.
Bon. Alors, de quoi est faite votre humeur littéraire aujourd'hui, Bertrand ?
Eh bien, j'avais envie de rester un peu zen, parce que je me suis dit, imaginons, il fait très chaud.
Ouais.
Mais vous avez trouvé un petit patio très sympathique au milieu des pierres, que dans ce patio, il y a évidemment une fontaine. Donc ce petit bruit qui est là, lancinant, mais très frais, que vous avez une chaise longue extrêmement confortable, et juste à côté de cette chaise longue, il y a un jasmin en fleurs, avec évidemment cette odeur enivrante du jasmin au début de l'été. Ouais. Donc si vous êtes dans cette position-là, ce qui me paraît complètement probable pour tous les auditeurs de Radio Calade, ça vous permet de vous transporter en Orient.
Ouais.
Et de se dire que, eh ben, en Orient, il y a aussi des écrivains, il y a aussi des lecteurs, il y a aussi des histoires d'amour, des histoires, évidemment, de guerre, d'aventure. Et aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de me balader sur quelques coups de cœur dans cet Orient mythique.
Donc on part. Alors, dans la littérature orientale aujourd'hui.
Bravo Mathieu. Voilà. Ça, on voit que la douceur du patio te permet de réfléchir sainement. Alors, je voulais quand même commencer d'abord par rendre hommage à une très 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 belle maison d'édition. Je sais que je suis toujours fanatique et j'aime bien parler des maisons d'édition parce que c'est tellement important d'avoir de belles maisons d'édition parce que c'est eux qui vont porter de magnifiques auteurs. Mmh. Et cette maison d'édition est une maison tunisienne qui a été fondée en 2005, donc à Tunis, et qui s'appelle Elizad. Et Elizad est une maison d'édition donc fondée par une femme, Elisabeth Dalouli, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est ça, qui fait toujours des textes. Alors, c'est des textes en français, hein, c'est une littérature francophone, des textes vivants, un peu décalés, des histoires humaines, mais pas forcément les histoires humaines qu'on a connues pour ceux qui ont lu les grands auteurs, entre autres égyptiens, Naguib Mahfouz ou autres, où on était presque plutôt dans les contes orientaux. Là, on est vraiment, ça peut être sur vraiment des histoires de tous les jours, des histoires poignantes et autres. Par exemple, pour en citer deux ou trois, il y en avait un de Djal Ilad. Alors, Djal Ilad est un homme qui est libano-palestinien et qui avait fait un très très joli petit texte qui s'appelait « Des ailes au loin ». Et c'était ni plus ni moins que l'histoire d'une famille. Alors, une famille de Haïfa, donc au temps où Haïfa était en Palestine, et une famille qui a navigué, qui est allée au Liban, qui est partie aux États-Unis. Et moi, j'aime beaucoup ces histoires de famille orientale, parce qu'on sait que l'Orient, c'est compliqué, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de tensions, il y a toujours beaucoup de tensions. Et il y a beaucoup de familles comme ça qui ont bougé et qui ont été évidemment déracinées, tout en n'oubliant pas les racines, et qui vont comme ça d'une culture à une autre. Et c'est des peuples qui sont très souvent, qui ont quelque part toujours une valise dans le couloir de l'entrée. Mais c'est aussi du coup des personnes qui ont eu mille vies, qui ont vu mille choses. Donc c'est toujours très beau. Et donc dans Des ailes au loin de Jal Hilal, on a comme ça cette saga familiale très chouette, très drôle, très enlevée. Et puis surtout, les éditions Elizade ont eu une très très belle reconnaissance, et pour ma part je suis très très content pour eux, puisqu'ils ont eu en 2020 le Goncourt du premier roman. Donc c'est un prix qui est toujours marquant, et pour cette petite maison d'édition qui n'est pas à Paris, et Dieu sait que le monde de l'édition quand on n'est pas à Paris c'est compliqué, elle est à Tunis, et elle a eu une très belle reconnaissance avec un titre qui était très touchant. Ce titre, c'est « Que sur toi se lamente le tigre ». Alors, le tigre, c'est le fleuve, le Tigre, en Irak. C'est un texte de Emilienne Malfatto. Et cette jeune écrivaine nous relate, alors c'est assez court, hein, mais très puissant. En fait, on est en 1980 et on a deux fiancés très amoureux.
Ouais.
Et on est en Irak en 1980, donc évidemment l'idée de tout premier rapport sexuel entre fiancés avant le mariage, il ne faut absolument pas y penser.
Ouais.
Mais ce jeune fiancé part à la guerre le lendemain. Il va revenir, bien évidemment, et ils se disent, voilà, c'est peut-être le moment quand même d'avoir une folle nuit d'amour.
Mmh.
Ils ont effectivement cette folle nuit d'amour. Ce jeune fiancé part à la guerre, et malheureusement, il ne revient pas. Et cette jeune femme est enceinte.
Ah,
et là, on a effectivement un texte qui est très puissant, parce que cette femme, elle est enceinte, enceinte d'un homme qui est mort, mais qui n'est pas son mari, donc quelque part, c'est une fille mère. Et dans cette société irakienne très conservatrice, c'est le déshonneur absolu. Et du coup, on en vient presque dans sa famille, chez son frère, chez son père, à parler de meurtre, parce qu'elle risque de déshonorer la famille. Je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est un texte très puissant, très beau, court, donc on va vraiment à l'essentiel. Et ça fait toute la force de cette maison d'édition qui est capable de nous trouver comme ça des textes très très puissants. Je pourrais citer beaucoup d'auteurs, en particulier un auteur qui s'appelle Berouk, qui est un auteur mauritanien. Alors Dieu sait que pour trouver un auteur mauritanien traduit en français, Mathieu, bon courage, j'en connais pas des masses.
Ouais.
Mais entre autres, il y a ce fameux Berouk, et qui, pareil, est au cœur du désert, fait des textes très très beaux. Et puis alors, juste parce que tu me le demandes, je t'en donne un dernier titre, qui s'appelle « Mon cher Albert ». C'est une lettre à Camus, qui a fait une universitaire française, mais d'origine, enfin qui est née plutôt à Blida, qui est Martine Mathieu. Et là, elle a un petit texte très très beau, où elle interroge beaucoup Camus, et son rapport à l'Algérie. Donc aussi, c'est un petit texte très chouette. Je continue, après avoir cité cette belle maison Elizade.
Mmh.
Alors, un texte que je viens de terminer, qui est très touchant, surprenant, déroutant. Donc c'est chez un éditeur qui s'appelle Mémoire d'Encrier, une maison d'édition qui est en train de monter avec des textes très surprenants. Alors là, c'est un texte d'un auteur syrien, c'est son premier roman. Alors cet auteur syrien vit à Vancouver, il s'appelle Ahmad Danir Hamadan, et c'est La balançoire de jasmin. Donc pour toutes les personnes qui sont toujours dans ce fameux patio, à côté des senteurs du jasmin, ce livre est pour vous. C'est un texte qui est assez surprenant, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme qui, avec son amoureux, a fui la Syrie. Et de déambulation, donc il est passé par le Liban, comme malheureusement des centaines de milliers, voire des millions de Syriens, et qui après a été accueilli à Vancouver, au Canada, autre vie. Et en fait, ce texte se présente un peu comme un conte des mille et une nuits.
Mmh.
Où il raconte à la fin de sa vie, donc on se projette dans quelques décennies, donc à l'homme de sa vie, qui est très malade, il lui raconte comme ça, comme un peu Sherazade, un conte, le compte de ce que était la vie en Syrie avant, de ce qu'était la vie en Syrie avant 2011, de ce qu'était la vie en Syrie quand justement il y avait des patios dans tous les coins de la ville, dans des belles maisons orientales, quand il y avait des souks et que dans ces souks on prenait le café et avant que les bombes détruisent tout. Et c'est un texte qui est touchant, qui est aussi déroutant parce que on est aussi dans un monde syrien, mais un peu underground, dans le sens où le jeune homme est gay, et on peut imaginer qu'être gay en Syrie avec le cher Hafez el-Assad et après avec le cher Bachar el-Assad, c'est doit pas être fun. Et du coup, on est transporté, mais je trouve que c'est une très belle idée qu'a eu cet auteur de nous faire découvrir cette Syrie d'autrefois, cette Syrie dramatique de la guerre, l'exil aussi, hein, donc on en revient là, à travers quelque part tous ces contes, voilà, où on les suit comme ça, et effectivement c'est très très touchant. Si j'ai encore une minute...
Oui.
C'est le moment de partir à Beyrouth. Donc Beyrouth, la belle ville de Beyrouth, le magnifique pays qu'est le Liban, mais un pays qui, on le sait aujourd'hui, connaît des heures dramatiques. Et là, on a une femme qui s'appelle Ryoko Sekuguchi, qui est japonaise, qui vit en partie en France, et qui avait passé un mois et demi au Liban et à Beyrouth. Mmh. Et elle a voulu raconter ce mois et demi, donc 961 heures à Beyrouth. Elle le raconte à travers la cuisine, à travers les rencontres, à travers des plats, etc. Sachant que la cuisine libanaise est quand même l'une des meilleures cuisines du monde. Et ça, je crois que tout le monde doit le reconnaître, il n'y a pas le choix. C'est parmi, on va dire après, la cuisine française, ça va attirer des tensions à Radio Calade. Et du coup, c'est un vrai bonheur de déambuler dans Beyrouth, de se balader dans Beyrouth à travers la cuisine. Et lire ce livre, c'est l'obligation de se précipiter dans un restaurant libanais ou de confectionner le makloubé ou autre feuille de vigne ou pourquoi pas un petit falafel. Moi, je serais partant pour manger un petit falafel à midi.
Ah, ça commence à donner faim.
Donc que tout ça nous donne de belles heures de lecture orientale.
Parfait, merci beaucoup Bertrand Lamure pour ces idées de lecture qui font bien voyager effectivement.
Belle journée, bonne semaine à tous.
Très bonne journée, à très bientôt Bertrand.
À bientôt.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.